Les ouvriers paria. Chantier en cours, de traduction en français du roman de l'écrivain américain Charles Fort, d'Outcast Manufacturer, publié en 1909. Lecture faite par un logiciel de synthèse vocale. Titre provisoire. Les ouvriers paria. Chapitre 1. À l'ouest, les palissades sur la longueur de la rue, grimâtent comme un bloc de plomb, un ornement de la nourriture rivée brillante comme la lumière, métal poli tout en acier fondu. Des fenêtres d'immeubles de rapport, comme noir d'un voile à l'intérieur des logis sombres, des enfants malpropres, paraissant encore plus sales à cause de leur pâleur, jouant à la balle, avec une tige de bananier pour batte, au milieu de la rue. Un cheval mort couché dans le caniveau côté sud, des enfants sautant sur lui, profitant de l'élasticité de ses côtes, un vieil homme graisseux arrachant les fers du cheval. Sur le trottoir, souillés ou des passants épicuriens, avaient régurgité de la bière éventée avant d'avoir de nouveau cruché pichet rempli, se tenait un jeune homme, un très jeune homme, vêtements légers, chapeau de paille, valise à la main, un grand jeune homme avec les paupières mi-closes et de larges, irrégulières et lourdes lèvres, paupières et lèvres comme une impression fugace d'ongles grossiers de doigts rejetant. Négligemment un écheveau de laine, un jeune homme se tenant debout hésitant, entre le cheval mort et le perron pas très haut d'un bâtiment. Sur la première marche du perron, une jeune femme, dans une cape sans manches dessinant une forme serpentine, bombant une hanche pour supporter un enfant qu'elle portait sous son bras. Sur la marche du haut, une femme robuste, les cheveux gris des cendres qu'elle avait ramonées. Briseur de grève. Briseur de grève. Cria-t-elle en rentrant dans la maison. La chef surveillante. Dit la voix railleuse d'une femme, dans l'ombre du hall d'entrée. Les hommes du syndicat à moi. Dit celle de la coiffure poudrée. Les hommes du syndicat qui n'ont pas peur de sortir de chez eux le soir. Vous ne pouvez pas rester en évidence sur le perron avec eux. Si les choses continuent comme ça, dit-elle en se lamentant à la jeune femme serpentine, qui bougea un peu, gloussa, et, en gloussant, détourna son visage. Plein de ces damnés briseurs de grève. Briseurs de grève. Vrai, vous n'êtes pas des hommes de syndicat, en aucun cas. Comment font la plupart de vous, pour vivre cet un des mystères du quartier? La chef surveillante. Partout où elle a jamais vécu, elle est connue comme une perturbatrice que ton vieil homme sorte et se batte avec moi. Je lui montrerai de quoi une femme est capable. Puis, très gentiment, à la jeune femme, il fait chaud, pas vrai? Comment va le bébé? Un homme corpulent sorti sur le perron, ses bretelles pendant derrière lui en deux boucles, un homme avec un visage large, singulièrement plat et blanc sur la pointe du nez, la pointe du menton, et les pommettes, un visage tel qu'on peut voir celui des boulangers, quand appuyé blanc et aplati contre la vitre de leur fenêtre. Oh, en fait, Madame Mayfi, ma femme ne voulait rien signifier de particulier. Vous devriez le savoir depuis le temps. N'est-elle pas tout le temps en train de dire? Que serait l'immeuble sans Madame Mayfi? Tous deux n'avez aucun motif de vous disputer. Ah, sûrement, cher monsieur, c'est à cause du climat. Bien sûr, chaque femme peut exprimer un brin d'opinion de temps en temps. Pourquoi vous mettez-vous en peine, cher monsieur? Ne prêtez aucune attention à moi. Excusez-moi. Dit le jeune avec la valise. Ses longues lèvres tremblant en un incontrôlable rictus. Je suis un peu perdu, je crois. Je veux dire que je crois que je suis au mauvais numéro. Ce que je veux dire, c'est que je suis à la recherche de la Universal Manufacturing Company. Dit par le mail à figure aplatie, vous êtes venu juste où il faut. Est-ce que je me trompe en vous prenant pour Monsieur Rack, de Jersey? Oui, bon. On m'appelle généralement Sim. Oui, Je suis Simrak. J'étais à la recherche d'une fabrique, en fait. Monsieur Beartwist l'est-il ici? L'homme avait tourné son large dos, avec les bretelles qui se dandinaient, et se dirigeait d'un pas traînant vers la première porte des pièces à l'est du hall. Il chuchota à quelqu'un dans la pièce de devant, et revint de son pas traînant vers le jeune homme, qu'on appelait généralement Sim, qui avait suivi tranquillement. Il dit avec un air embarrassé, « Oh, avez-vous reçu ma lettre? Vous êtes Monsieur Rack? Oui, je suis Monsieur Beartwistl. Oui, nous avons un emploi vacant en ce moment. Facho, n'est-ce pas ? » Faisant face à Sim, traînant des pieds doucement à reculons vers la porte de côté, lançant pas dessus son épaule, il a reçu ma lettre. Le bruit qu'on s'est fait. Quand Sim reçut la permission de venir à la porte, il regarda dans la pièce de devant, et vit une femme qui s'activait dans tous les sens, une femme enveloppée de verre fané, ses cheveux, comme une touffe de soie de maïs brûlée par le soleil, s'activant ici et là, ramassant des vêtements et des papiers, dès qu'elle le sol était jonché, s'affairant à des choses qu'elle envoyait sous un poêle, qui était en face de la porte. Poussant des choses sous un canapé, qui était entre les deux fenêtres de façade, elle vit Sim, et courut à une salle intérieure, par une ouverture, où des rideaux bleus, joints en haut, s'écartaient l'un de l'autre en se resserrant, comme la blouse d'un géant à cheval. Contre le mur de la salle il y avait deux tables, auxquelles étaient assis les effectifs du bureau de la Universal Manufacturing Company, un homme et une femme. Sur le sol du bureau il y avait des journées et des lettres piétinées, et du papier taché qui avait enveloppé de la viande, des os et des têtes de poisson avaient été jetés à un chat, du rembourrage sortait du canapé, dont les ressorts touchaient le sol. Il a reçu la lettre, très bien, dit Monsieur Beartwistl. À la première table, des deux tables le long du mur de la pièce, était assise une femme, avec une épaule un peu plus basse que l'autre, lesquelles épaules voûtées de telle façon qu'elle était presque bossue, ses cheveux étaient noirs et brillants et épais de pommade capillaire, avec leur raie au milieu, ses cheveux lourds, lisses et brillants ressemblaient aux élytres entr'ouverts d'un monstrueux scarabée. La femme portait une ceinture d'un rouge éclatant, et des rubans d'un rouge plus léger, et encore plus criant à ses coudes. « Il est venu, Mademoiselle Guffy, » dit Monsieur Beartwistl. Mademoiselle Guffy se retourna, et lança son bras gauche sur le dossier de sa chaise, ce qui fit paraître ses épaules de même hauteur, elle fixa Sim du regard, sans rien dire. À la seconde table, qui était près d'une fenêtre, était assis un homme, les cheveux avec une coupe au bol, qui retombait sur ses oreilles, ou oreilles, car une oreille était manquante, coupe au bol qui retombait sur toute sa tête, très affable et enfantin. « Il est venu, Asbury, » dit Monsieur Beartwistl. L'homme portait une chemise de nuit, rentrée dans son pantalon, des pieds sans chaussettes dans des pantoufles sans talons, il tenait ses mains, tombantes comme les pattes avant d'un kangourou, sur une machine à écrire poussiéreuse. Monsieur Rack, Monsieur Asbury Parker. Monsieur Asbury Parker, assis avec ses mains flétries sur la machine à écrire, regardant lentement autour, puis, oh! Vous me parliez? Oh, comment allez-vous? Il se leva, debout à côté de sa table, ne disant rien. La main de Sim bougeant et remuant chapeau et valise. Rideau bleu émouvant, la femme derrière eux les serrant fort. Des piles de papier entre les deux tables, des piles désordonnées de lettres dactylographiées, qui étaient tombées sur des empilements d'enveloppes, mélangées avec des catalogues, et du papier pour les emballages. « Prenez un siège, monsieur, » dit Monsieur Beartwistl avec une pitoyable vivacité. Sim assis sur une chaise avec le dos tourné vers les rideaux bleus, S'il me conduit à se maintenir très avancé sur le bord de la chaise, les ressorts saillants de celle-ci le repoussant. Les murs peints en vert de la salle étaient marbrés de fumée du poêle, barbouillés de suie avec des formes étranges, une salle verte, comme un caisson de verre immergé dans la mer, dans une mer verte, pas dans les profondeurs lumineuses et claires de l'océan, un caisson immergé quelque part, et suspendu au milieu de débris, et de mauvaises herbes macérées, une cellule immergée dans la mer des sargasses. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui, encore que nous dussions, mais je ne m'excuserai pas. Dit Monsieur Birtwistle, Monsieur Asbury Parker encore debout raide à côté de sa table. Mademoiselle Guffy, avec son bras sur le dossier de sa chaise, fixant Sim. Oh, il n'y a pas de problème, dit Sim. Une rue plutôt animée, ici. Il rit sans retenue. Il essayait de ne pas regarder les têtes de poissons sur le sol, puis il détourna le regard d'une casserole de cendre à moitié sous le poêle. « Je suppose que nous pouvons faire mieux que ça pour vous, » dit Monsieur Birtwistle, montrant la chaise qui avait repoussé Sim quand il s'y était assis. « Delia, » dit-il, en allant au rideau bleu qui s'agitait. Au début Madame Birtwistle ne voulut pas sortir. Monsieur Birtwistle réapparut, portant une chaise avec une assise concave, canée, toutefois une chaise qui ne vous repousserait pas. Puis Madame Birtwistle sortit avec défi, les yeux regardant droit devant, les yeux évitant Sim, bien qu'elle inclina la tête légèrement dans sa direction. Elle avait empilé ses cheveux en une cimotée instable, son visage était blafard. Sous une petite lèvre supérieure deux dents blanches étaient exposées, saillant juste comme deux grains sur un reste d'épis de maïs pâle. « Asbury, » dit-elle sèchement, « vous pouvez continuer à travailler. Monsieur Rack, » commenta Monsieur Birtwistle, avec une sorte de grandiloquence désespérée, et alors qu'il s'avançait pompeusement, une boucle de ses bretelles qui pendait se prit dans un coin du poêle, le tirant en arrière. « Oh, malédiction !» dit mollement Monsieur Birtwistle. « Monsieur Rack doit nous prendre comme nous sommes, » déclara Madame Birtwistle. Du pied elle poussa la casserole de cendre plus sous le poêle. « Certainement !» dit promptement par Sim. « Oh, asseyons-nous !» dit Monsieur Parker. Il se laissa tomber sur sa chaise, et s'assit en tenant ses mains languissantes immobiles sur la machine à écrire bancale. « ça va comme, » dit Sim. « Ne vous préoccupez pas pour moi, je fais toujours comme chez moi partout, » en parlant laborieusement, ses yeux vacillants, sa bouche dans un rictus de contraction, « je veux dire, il n'y a pas de problème vous savez. Alors vous avez reçu ma lettre ?» demanda Monsieur Birtwistle. « Est-ce que votre arrivée cet après-midi, a quelque chose à voir avec ça ? Il se trouvait que j'étais en ville, vous savez. Je venais juste d'arriver, vous voyez. Si vous êtes trop occupé, eh bien, nous pouvons discuter de la question une autre fois. Eh bien, je n'ai rien de particulier en ce moment précis, si vous non plus. Non ? Je viens souvent en ville pour un jour ou deux. » Madame Birtwist le laissa éclater ses sentiments. Elle avait été fermée en cachette une porte de placard, ramasser une paire de chaussettes qui séchaient sur la porte du four, tout en rassemblant des papiers avec ses pieds. « Aucun autre homme ne vivrait de la sorte, » marmonna-t-elle d'un air renfrogné. « Vous aviez de l'argent le mois dernier. » Pourquoi ne pas avoir assuré des bases solides à ce foyer? Je trouve ça trop bête de vous demander, allons-nous avoir ceci et allons-nous avoir cela? Assez d'allons-nous, parce que toute la merde vient de là. Je n'ai jamais vécu comme ça, comme une voleuse, inquiète pour nous chaque fois qu'on frappe à la porte. Ce n'est pas la peine d'en dire plus. Non, ne partez pas, Monsieur Rack. Vous n'êtes pas en cause. Elle parlait avec un léger accent irlandais. « Ma chère, par la voix de Monsieur Blair Twistle, qui avait un léger ton asillard de l'Ouest, ne vous excusez jamais de rien. Oh, c'est bien beau de dire ça. Je voudrais vous demander, Monsieur Rack, dit Monsieur Blair Twistle. Savez-vous taper à la machine ? Asbury ici présent n'est pas de la plus grande habileté. Monsieur Parker appuya avec précaution sur les touches de la machine à écrire. Vous pourriez démarrer ici avec nous, vous pourriez faire fortune ici. Oh, oui, dit Sim, vous ne devez pas vous tracasser pour moi, regardant autour de lui nerveusement, souriant avec une certaine inquiétude à Mademoiselle Guffy, pour s'attirer la sympathie de cette silencieuse personne qui le fixait. Un enfant déambula dans le bureau de la Universal Manufacturing Company, une petite fille à l'allure de matrone, qui portait son chapeau à large bord sur ses épaules, l'élastique de celui-ci autour de son cou. Elle dit à Mademoiselle Guffy, qui reprenait le collage des bords d'un tas d'emballages de papier, « Oh, c'est une belle ceinture que vous avez là !» Et à Madame Blair Twistle, « Oh, votre petit mari est à la maison ?» Elle alla à la chaise au ressort saillant et s'y assit, mais rapidement se leva, s'exclamant, « Mon Dieu !» Puis elle alla à un fauteuil près de la fenêtre et, ou les mains derrière sa tête et balançant ses jambes, elle soupira, soit parce qu'elle était préoccupée, soit parce qu'elle se sentait commode. Le silence dans la salle, puis, des sons venant d'au-dessus de quelqu'un sautant sur du bois de chauffage pour le casser aux dimensions du poêle, et, de la voix souffreteuse d'un vieil homme, une plainte monotone répétitive, était maugréée dans une chambre à l'étage. « Oui, dit Monsieur Blair Twistle, nous pensons développer notre activité. Mon Dieu !» s'écria la petite fille, à cause de sa mauvaise chute en arrière du fauteuil. Puis, « Mais, Madame Blair Twistle, Madame Maeffy m'a envoyé pour savoir, si vous partageriez une pinte de bière avec elle. Y allons-nous ? » demanda Madame Blair Twistle. Allons nous absenter pour un moment. Monsieur Rack nous excusera. Vais-je lui apporter une tasse de cette soupe? Vais-je le faire? Monsieur Blair Twistle haussa les épaules et leva ses mains faiblement. Je suppose que nous pouvons nous absenter pour un moment. Ce grain de beauté sous mon menton est lâche. Vais-je l'arracher? Vais-je le faire? Non. Dit Monsieur Blair Twistle. Promptement et énergiquement. Eh bien, alors, Monsieur Rack, d'une voix joviale, se frottant les mains, les devoirs sociaux semblent nous appeler. Les devoirs sociaux, vous comprenez. Nous serons rapidement de retour. N'ayez pas peur de Mademoiselle Guffy. Vous pouvez mettre le pied à l'étrier avec nous de toute façon, vous savez. Nous partageons vos propos venant de Mademoiselle Guffy, qui détourna rapidement le regard pour le fixer de nouveau sur Sim. Faites comme chez vous, et, quand nous serons de retour, nous en parlerons. Les ouvriers s'en allèrent, la petite fille les suivit. Je crois, dit Sim, se penchant pour prendre sa valise, je ferais mieux de m'en aller, je viens juste d'arriver. Vrai? Mon vieux, vrai, vous êtes encore un jeune homme, dit Mademoiselle Guffy. Asseyez-vous ici, ils seront bientôt de retour. J'ai une petite affaire à traiter, hésitant, jouant avec la poignée de sa valise. La petite fille, regardant par la fenêtre de façade, depuis le perron, cria, je reviens. Par la porte du hall elle rentra dans la pièce. Sortant de minuscules poupées de porcelaine de sa poche, les tenant en évidence pour que Sim les voie, en disant, « J'ai un nouveau chapeau rouge, grand-mère a un nouveau chapeau et de nouvelles chaussures. Mademoiselle Guffy, Mademoiselle Dunphy et l'autre Mademoiselle Dunphy sont dans la rue, et viennent ici, je suppose. » Et une fois de plus elles sortissent sur le perron. Pas de chance pour elles. dit Mademoiselle Guffy, elles viennent toujours quand la maison est débordée. Assim, ce sont des jeunes filles qui passent leur temps dehors, ce sont les nièces de Madame Birtwistl. La première Mademoiselle Dunphy, qui entra dans la pièce était une jeune femme du genre potiche, petite et large d'épaule, habillée dans une robe couleur peau de fleurs, des plumes vertes, comme du rembourrage de paillasse, sur son chapeau. Elle entra bruyamment dans la pièce, lançant « Oh, oh! Vous êtes là? Où sont les bières ?» Puis, se tournant vers la porte du hall, agitant une grande main rouge à quelqu'un sur les escaliers, criant de bon cœur, « Oh, oh! Est-ce vous monsieur Cunan? Et comment diable allez-vous ?» Elle courut au rideau bleu, debout entre eux, appelant, « Bière, oh, bière !» Puis, dans un murmure rauque, en se tournant vers Mademoiselle Guffy, « Est-ce que les négriers sont sortis? Est-ce que les négriers sont sortis prendre l'air? Emma est ici. Que pensez-vous d'Emma? Elle m'a laissé sur la 57e rue, disant qu'elle allait faire du shopping, et je tombe sur elle au coin de chez vous. » L'autre Mademoiselle Dunphy entra dans la pièce, une jeune personne raide de la tête aux pieds, habillée en blanc. Se serait-elle tenue très immobile, avec sa grosse face pâle et ronde, elle aurait pu être confondue avec un aquarium sphérique sur un piédestal en marbre. Non mais, celle-ci, dit la Miss Dunphy blanche, désignant sa sœur, jetant un regard à Sim, jetant un coup d'œil ailleurs, de nouveau jetant un regard sur lui, nous avons juré toutes les deux, les négriers sont sortis, n'est-ce pas? Dans un chuchotement, toutes les deux nous jurons que nous ne reviendrons jamais ici, vous savez bien pourquoi, Mademoiselle Guffy, et celle-ci dit, Emma précisa-t-elle, va à tes affaires, car je ne resterai pas dehors cet après-midi, alors que la famille n'est pas à la maison, mais je rentrerai pour faire un peu de couture, a-t-elle dit. Et je la rencontre au coin de la rue, après que toutes les deux aient fait serment de ne jamais revenir ici. C'est notre nature qui nous conduit ici, je suppose, Mademoiselle Guffy. Comment allez-vous, Monsieur Parker? Ce n'est pas utile de vous le demander, vous avez l'air bien. Quoi? Dit Monsieur Parker. Oh, l'air bien? Oh! Se recroquevillant sur la machine à écrire, semblant indifférent jusqu'au dernier degré, il était cependant en train d'essayer d'attirer l'attention de Mademoiselle Guffy, qu'elle devrait présenter Sim à la jeune femme potiche, et à sa sœur, l'aquarium. Toutes les deux dehors, comme d'habitude. Dit Mademoiselle Guffy, les deux dehors à chercher ou passer du bon temps, et laissant le travail à lui-même. Comment allez-vous? Comment diable allez-vous? Dit la demoiselle d'un fille de terre cuite, courant à la fenêtre, agitant les mains à une connaissance à une fenêtre de l'autre côté de la rue, criant, est-ce que le vieil homme travaille encore? Oh, vous faites votre part de boulot, n'est-ce pas? Sur mon âme, il a été assez longtemps inactif maintenant. Il faut qu'il fasse quelque chose, de sorte que vous ne passiez pas un autre dimanche sec. Faisant demi-tour, remarquant, c'est une jolie ceinture que vous avez, Mademoiselle Guffy. Et combien elle coûtait? Oh, c'est juste une petite chose que j'ai eue sur l'avenue. Il ne cousse même pas à moitié, les boutons sur ces choses de série. Et à combien c'était, si ce n'est pas trop demandé? 298. Permission accordée dit en chœur par les deux demoiselles Dunphy, debout ensemble, puis assises ensemble sur le sofa à faisait entre les fenêtres de façade. Pas encore mariée? Demanda Mademoiselle Guffy pour plaisanter. Je ne vous ai pas demandé si vous l'étiez, Mademoiselle Guffy, répondit la demoiselle Dunphy pâle, fronçant fortement les sourcils. Vous ne l'avez pas fait, chère jeune fille, et je suis seulement en train de plaisanter avec vous. Je suppose que vous faites de même avec moi. Il n'y a pas urgence, laissons ça à la volonté de Dieu. Oh! Dit Mademoiselle Dunphy, avec un grand sourire, j'ai un ami. Elle rougit un peu, débouffée, comme des poissons rouges dans un aquarium, flottant dans sa face incolore, semblable à un globe, poisson rouge dans un globe de lait, peut-être, ou poisson rouge se débattant dans un globe de chaud, allez savoir. Bon, ce n'est pas mon petit ami, mais il m'a acheté cette robe, je suppose que vous êtes au courant, et cette bague, sortant une bague de son porte-monnaie, mais elle ne me plaît pas, et je ne la porte pas sauf quand il est là. C'est un homme grand et fort, quoi qu'il en soit, et aussi grand que ce gentleman ici. Mon Dieu! Je manque à tous les égards! S'écria Mademoiselle Guffy. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez, monsieur? Mademoiselle Dunphy, bien sûr, je vais vous présenter, ce gentleman dit qu'il est monsieur Rack. Jusqu'à présent, dit Sim, riant mal à l'aise et se dressant maladroitement. Les demoiselles Dunphy se levant, Mademoiselle Guffy semblant y réfléchir, puis se levant à demi. Quelle chaleur! Dit Sim, son sourire bête qui ne pouvait pas contrôler tord dans sa bouche, ses lèvres comme des éplucheurs de pommes. Il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Oh, êtes-vous de la campagne? En ai-je l'air? Cherchant à tenir le dos de sa chaise, ou n'importe quoi d'autre à tenir pendant qu'il était debout. Je demandais simplement, tournure de la Mademoiselle Dunphy blanche, lourde et fronçant les sourcils. Eh bien, je suppose que vous ne faisiez que demander. Je suppose que quand une personne pose une question, elle ne fait que questionner, riant maladroitement. Je veux dire oui, je suis arrivé ce matin. Oh, vraiment? Dit la demoiselle Dunphy blanche, souriant avec sympathie, elle et sa sœur regagnant le sofa, Cathy Dunphy agitant encore sa main par la fenêtre, monsieur Parker se levant. Et, continua la demoiselle Dunphy blanche, qui était Mademoiselle Emma Dunphy, il m'a emmené à Coney Island trois fois, et a dépensé $12 pour moi à chaque fois. Allez-vous travailler ici, monsieur Rack, si ce n'est pas abusé de vous demander? Dieu ait pitié de vous, si c'est le cas, mais c'est seulement votre venue ici de la campagne qui me fait demander, si vous êtes un autre de leurs esclaves. Est-ce qu'ils vous doivent une grosse somme? Mademoiselle Guffy? Ah, qu'avez-vous ma fille? Pensez-vous que je les laisserai me tondre? Juste la nuit dernière, dans le hall, pour que tout le monde puisse entendre, lui adressant la parole directement à elle, je dis payez-moi ce que vous me devez, Madame Birtwistle, et je ne vous remercie pas pour ce qui m'appartient. Elle a réagi comme si elle avait reçu un coup. Elle a déguerpi comme un corneau après une raclée. Pour $10 elle ne voudrait pas, que je vous raconte cette minute bénie. J'ai aussi acheté ces rubans, ils vont bien avec la ceinture. Et avez-vous obtenu une bonne place maintenant? Monsieur Parker se rasseyant. Nous travaillons toutes les deux dans la même maison, vous savez. Ils ne peuvent pas faire suffisamment pour nous, on ne refuse pas une autre aide. Mais si mon ami distingué ne m'avait pas acheté cette robe, je suppose que vous êtes au courant, j'aurais tout juste des haillons sur le dos. Comme vous le savez bien, et ce n'est pas une nouvelle pour vous, Mademoiselle Guffy, chaque fois que nous venons ici, c'est juste $5 de plus, ou c'est juste $10 de la semaine jusqu'au vendredi. J'ai fait serment solennel que je ne viendrai plus ici. Celle-ci a fait de même. Ils ont pris en charge notre déplacement, mais ça a bien en fait été pris de notre poche. Pourtant nous voici, ce doit être ancré dans notre nature, je suppose. Oh, oh! Était la façon de Cathy de rire de toute son âme, elle frappait ses genoux de ses larges mains rouges, puis agita les mains avec excitation à sa connaissance de l'autre côté de la rue. Se penchant vers la fenêtre, criant, « Et est-ce que les corps du vieil homme vont mieux? Ah, c'est une déplorable souffrance. Et qu'êtes-vous en train de cuisiner?
Oui, j'en vois la fumée.
De l'agneau?
Des aubergines, dites-vous?
Oh, du steak, Cathy se levant, les regardant par la fenêtre.
Je ne suis pas particulièrement amateur du steak pour ce qui me concerne.
Comment? Je dis que je ne suis pas particulièrement amateur du steak.
Non, pas amateur, mais je l'aime spécial, avec le sang qui suinte, mais pas une vraie amateur du steak en réalité.
Comment? Du cornet de bœuf haché?
Je crois, dit Cathy, en retournant au sofa, qu'elle n'aime pas qu'on voit la fumée sortir de sa salle.
Elle a fermé les fenêtres.
Ma foi, je ne sais pas, disait Mademoiselle Guffy.
Tous deux se comportent bien avec moi.
On ne peut pas le nier. Ils ne me paient pas et je suis la pauvre esclave qui court faire toutes leurs courses.
Ça me met hors de moi de faire ça, mais ils m'ont sorti de la rue, quand je n'avais nulle part où me poser.
Recroquevillé, Monsieur Parker semblant inconscient de tout, s'imprassant des spirales sur son chapeau de paille, à l'écoute pour en apprendre tout ce qu'il pouvait, Monsieur Parker se redressant et faisant un clin d'œil à Sim.
Oh, vous les hommes!
Dit Emma Dunphy, menaçant joyeusement de la main Monsieur Parker.
Est-ce qu'une femme ne peut pas cancaner un peu avec vous?
Et les trois femmes de rire, emportés par leur conversation, puis s'en écartant, puis de nouveau fébrilement reprises.
Mais, pour ce qui est d'être bons avec vous, Mademoiselle Guffy,
comment pouvez-vous dire ça?
Ils ne peuvent être bons avec personne.
Bons envers eux-mêmes mais rien d'autre.
Elle a serré nos bourses pour nous, et la vôtre aussi, comme vous le savez très bien.
Comment Cathy pourra-t-elle leur faire face?
Avec ce nouveau chapeau sur la tête, je ne sais pas.
C'est trop regrettable que la pauvre fille achète un chapeau pour elle-même, n'est-ce pas?
Comment pouvez-vous dire qu'ils sont bons envers vous?
Je pensais que vous aviez plus d'esprit, Mademoiselle Guffy.
J'avais pensé, un jour de l'hiver dernier, qu'elle avait relâché sa vigilance sur moi, quand j'eus l'audace de regarder un bout de fourrure dans un magasin, à 1,90 $, pour mon coup.
Les jus?
Demandez-moi si j'ai eu quoi que ce soit dont j'ai besoin.
Si elle était la sorte de femme qu'il faut, elle aurait dit, Emma, vous allez attraper la mort à moins que vous ne vous procuriez quelque chose pour votre coup.
En fait, Mademoiselle Guffy, c'est lécher la main qui vous frappe de dire qu'ils sont bons envers vous.
Mon Dieu! Le visage terne d'Emma s'enflammant, comme d'un globe sombre soudain transpercé par un rayon de soleil, ses oreilles doivent être rudement en train de chauffer.
Mademoiselle Cathy Dunphy tapa sur ses deux genoux et les pinça fort, elle se tourna sur la gauche et grimaça, et se tortilla, grimaçante, vers la droite, se pinçant durement, ce qui était sa façon silencieuse de rire.
Mais avons-nous vu ici un panorama de New York, quand nous sommes venus la première fois?
Y eut-il quelques statues de la liberté, le spectacle de Broadway pour nous?
Non, mise directement à travailler dans un hôtel, commençant à faire de l'argent pour eux, 16 heures par jour, si ça vous dit quelque chose, jusqu'à ce que nous allions chez des particuliers.
Oh! Nous sommes très satisfaits où nous sommes maintenant, n'est-ce pas Cathy?
Notre Lady ne sait quoi faire pour nous, n'est-ce pas Cathy?
Sur nos talons toute la journée.
Vous en faites trop, dit-elle.
Toutes les deux nous jouons aux grandes dames la plupart du temps.
Attendez seulement, jusqu'à ce qu'elle arrive et voie le chapeau de Cathy, vous verrez la méchanceté ramper sur son visage, vous verrez, vraiment.
Votre audace, Cat, osez aller acheter quelque chose pour vous, pendant que, encore que je dirais que lui ne soit pas si mauvais, il n'est pas si méchant, convainc Cathy, assise avec les genoux de côté, et un large ruban en serrant chaque genou.
Elle devrait le faire travailler à quelque chose de plus ordinaire, c'est entièrement de sa faute à elle.
Il n'est pas si mauvais,
dit Mademoiselle Guffy. Et pour en parler maintenant, je pourrais vous raconter quelque chose si je le voulais. A-t-elle aucune sorte de reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour eux deux, Mademoiselle Dunphy? Non, mais elle garde la porte, ici, fermée quand vous venez sur leur demande, aussi les voisins ne vous verront pas. Oh, on se donne de grands airs. Nous sommes la crème du monde. Nous sommes des fabricants, oui nous le sommes, et en regardant dehors les voisins, verraient-ce à nos nièces passant leur temps à traîner et arriver en retard. Aussi bonne que de l'or, voilà comment sont les filles, c'est ce qu'elle dit, bonne comme de l'or, mais elles réagissaient comme des jeunes filles de service. Elles ne le sont pas depuis très longtemps, mais elles apprendront aussi garder la porte close sur vous, pendant que vous êtes en train d'apprendre. À la suite de quoi l'adversaire se déverse, en effet, mais nous pourrions être vêtus de soie, si nous avions gardé ce qui était à nous. Et nous n'avons pas appris à passer l'éponge chez les autres, de toute façon. Et nous pourrions nous habiller chez les plus raffinés du pays, si ce n'était à cause de nos cœurs trop tendres. Vous pourriez en effet, chère fille. Mais, comme vous dites, il n'est pas si mauvais. C'est une jolie ceinture, n'est-ce pas? Je peux la porter l'automne, et si solide, et seulement coûter 488. Autorisation accordée. S'exclamèrent les demoiselles Dunphy. Ils ont été bons avec moi. Elles n'ont. Cria la demoiselle Dunphy blanche, si rapidement qu'elle bafouilla. Et, malgré tous les défauts qu'il a, je dois dire qu'elle est la seule à blâmer pour cela. Voulez-vous m'excuser un moment? Demanda Sim. Avec ses dents il se rongeait un ongle. Je veux dire. C'est un port fort pour moi, vous savez. Vous avez ma parole, je ne sais pas où je suis ici, vous savez. Vrai quoi, regardez dans quelle situation je me trouve. J'ai mis la main sur un des catalogues de Monsieur Birtwistle, et j'ai écrit pour savoir s'il y avait quelque emploi vacant. Et il m'a répondu de venir. Je veux dire, c'est dur pour moi. Vous savez comment c'est quand vous quittez la maison, et venez à la ville pour un job, eh bien, vous ne pouvez pas repartir en arrière, c'est tout. Dans notre bourgade, il n'y a pas un homme, une femme ou un enfant qui ne soit en train de dire, « Oh, mon Dieu! Sim a enfin un job. C'est comme ça, c'est ce qu'ils disent. Je ne crois pas avoir été traité correctement. Je m'attendais à trouver ici une grande usine, où se fabriquait et se vendait tout ce à quoi vous pourriez penser, c'est ce que dit son catalogue. Ne vend-il donc rien alors? Incroyable, cher monsieur. Ainsi donc vous êtes juste un gamin, dit Mademoiselle Guffy rudement. Bien sûr qu'il vend tout ce qu'on peut trouver sous le soleil, c'est un fait, et il fait beaucoup d'argent, de temps en temps, c'est un fait. Si seulement elle le dirigeait mieux, dit Mademoiselle Aimant Dunphy. Il fait de son mieux, mais ce n'est pas un homme d'affaires, n'est-ce pas, Monsieur Parker? Je ne vois rien ici, d'ici m'a-t-il un entrepôt? À ce moment la blanche Mademoiselle Dunphy, se prit d'un intérêt aimable pour Sim, elle se leva, comme pour prendre une chaise plus près de Sim, mais se rassit à côté de sa sœur terre cuite, les coudes sur ses genoux, son globe entre ses mains. N'avez-vous jamais entendu parler de la vente par correspondance, monsieur? Si c'était mieux géré, ça lui rapporterait bien avec ça, pas d'argent investi, pas de bureau à louer ni de taxes ni d'assurance à payer. Pas de mauvaise créance, il vous dirait la même chose, j'ai tout appris de lui, mais il est fou, ou, pour le moins, ma tante ne l'oriente pas correctement, monsieur. La première chose, quand il gagne un peu d'argent, c'est qu'il doit recruter de l'aide, et parle d'avoir un étage dans un gratte-ciel, et charlatan qu'il est, je ne dis rien contre lui, mais il est... Et l'Universal Manufacturing Company, Comment vous sentez-vous avec ça? En effet, comment vous sentez-vous? Dit Mademoiselle Guffy. Mademoiselle Cathy Dunphy cogna ses genoux et cria « Oh, oh !» Mais, comme je disais, les grandes idées qu'il a. Vivre dans cet endroit, et avoir un numéro de téléphone imprimé sur ses entêtes de facture. Avez-vous regardé autour de vous, et voyez-vous le téléphone, monsieur? Il est au bureau de tabac, ce numéro de téléphone. Et lui qui signale qu'on adresse la correspondance au bureau K ou au bureau W, est-ce votre bureau? Est-ce que le bureau K est celui de Monsieur Parker? Et créé en 1776 sur ses entêtes de lettres. 1776, qu'en dites-vous? Sur mon âme, ces grandes idées seraient la ruine de quiconque. Et sa façon de raisonner, ou, plutôt, son manque de raisonnement, faisant de la publicité en été pour vendre des patins et des raquettes de neige, et pour des ventilateurs et ce genre de choses en hiver, pas de jugement du tout, et tout dans la confusion. Pas de lettres envoyées, et pas de commandes rapidement satisfaites, et la prospérité ne peut s'établir. Oh, un homme d'affaires? Dit Monsieur Parker. S'y mettait en train de demander, comment se fait le travail ici, alors? Je vais vous le dire clairement, monsieur, dit Mademoiselle Dunphy, agitant ses mains, ses coudes sur ses genoux. Il fait de la promotion, et envoie ses catalogues, comme s'il avait en stock toutes ces choses qu'il annonce, mais il ne les a pas, pas le moindre sacré truc, ni jouet ni landau breveté. Je doute qu'il y ait la moindre chose en vente, qu'il ait jamais vu de ses propres yeux. L'anglais supplie compagnie à tout, et il exécute les commandes pour lui. Disons, par exemple, qu'il reçoit une commande de Monsieur Brown de Newark, pour un torréfacteur à café. Monsieur Brown lui envoie 25 cents en timbre, tout se fait par timbre. Il écrit l'adresse de Monsieur Brown sur sa propre étiquette imprimée, et envoie ça avec 16 cents au revendeur, conservant 9 cents pour lui-même. Les revendeurs envoient le torréfacteur avec son étiquette sur l'emballage, à Monsieur Brown, sans que rien n'indique que ça ne vient pas de Monsieur Birtwistle, qui gagne 9 cents pour la transaction. Ce n'est pas si mal, dit Sim pensivement là. Seule chose est, y a-t-il suffisamment de commandes? Mademoiselle Guffy chercha du pied sous la table, toucha quelque chose, et tira un sac à pommes de terre, en forme de poire tant il était rempli. Plein de lettres que nous avons reçues, dit-elle, soutenant le sac. Nous les conservons et les vendons à un courtier en lettres, qui les rentabilise en vendant les adresses qui figurent à des hommes d'affaires dans tout le pays. Oh, bureau K? Demanda Monsieur Parker. Des voix sur les marches, les voix de Monsieur et Madame Birtwistle, et de la femme passionnée mais gentille, que Sim avait vue sur le perron. Bien sûr, envoyez-le maintenant. Il sera chaleureusement accueilli. Je le traiterai comme quelqu'un de la famille. Jolie voix, dit Mademoiselle Guffy en ricanant. Monsieur Birtwistle était parti avec une face de boulanger contre la fenêtre, il revenait avec une face de joaillier contre la fenêtre, d'un homme indifférent à la dépense, peu importe comment ce changement avait été provoqué. Il vit aussitôt les demoiselles Dunphy, et fut satisfait de se tourner vers Mademoiselle Guffy et de dire, « Je me demande d'où les filles peuvent être à s'occuper ?» Je suis très heureux qu'elle reste à l'écart de nous. Vous savez, Mademoiselle Guffy, combien je hais Cathy. Oh, je ne peux pas supporter Emma. Comme vous savez, je suis toujours en train de dire les filles. Pourquoi ne se tiennent-elles pas à l'écart de nous? S'il y a quelqu'un que je ne peux pas supporter. Par tous les cieux, Mademoiselle Guffy. Pensez-vous qu'elles m'ont entendu? C'est le diable en personne. Dites si ce n'est pas le diable en personne. Dirent les demoiselles Dunphy, ravies de cette plaisanterie. Bien sûr, Il est inutile de vous demander, monsieur Birtwistle, comment vous allez. Vous n'avez jamais eu l'air mieux. Madame Birtwistle était sortie avec une tasse de soupe à la main, elle revenait avec un sandwich dans une main, et un chaton dans l'autre. Emma et Cathy. N'avais-je pas dit que j'avais entendu Cathy? Allant vers Emma, l'embrassant et lui donnant le sandwich, embrassant Cathy et lui donnant le chaton. Voulez-vous un peu de moutarde dessus? Et comment allez-vous? Aussi bien que de l'or, dit Emma, sans beaucoup de ressentiment. Mademoiselle Guffy secouant un poing vers elle en signe d'avertissement. Allons au travail, dit Monsieur Birtwistle. Emma, pardonnez-moi, Cathy, pardonnez-moi. Au travail avec ce jeune homme. Il déambulait dans la pièce, dit encore au travail, et s'arrêta face à Sim, qui, entre Mademoiselle Guffy et le poêle, était assis en face du canapé. Alors maintenant, jeune homme, votre cas. Ses manières formelles faisant se lever Sim respectueusement. Jeune homme, vous savez peut-être mais plus, sûrement probablement pas que je bénéficie d'une compétence reconnue aux États-Unis. Il était debout à un des côtés de Sim, au coin du poêle, le dos de sa main gauche derrière lui, appuyé contre un bouton de dos des bretelles, le poignet de sa main droite contre un bouton de devant des bretelles, les doigts de cette main droite tendue, la paume vers le haut. Les autres, excepté Monsieur Parker, en train de parler, Monsieur Parker en train de taper à la machine, écrivant soigneusement une lettre, puis recroquevillé, avec les mains comme un kangourou, pour trouver la lettre suivante. Avec sa main droite à plat, Monsieur Birtwistle affecta un moment de profonde réflexion, puis affecta une respiration profonde, qui projeta en avant sa poitrine massive, et augmenta son air d'importance. J'ai reçu votre sollicitation respectable, et vous ai répondu par une offre, je crois. Ma propre expérience précoce a nourri un appui chaleureux dans mon cœur pour tout jeune homme, se lançant tout juste comme un humble pionnier sur les vagues de la vie. Oui. Monsieur, dit Sim respectueusement. Aussi laissez-moi vous dire quelque chose, que je n'ai jamais cessé de regretter, je ne suis pas un homme éduqué, ce pourquoi j'ai besoin des services de quelque jeune homme, qui ait profité de meilleurs atouts que j'ai jamais eus. J'ai eu seulement 2 années de scolarité dans ma vie. Le pouce droit fermé sur 2 doigts, laissant 2 doigts tendus. Quand j'ai commencé dans la vie, j'avais seulement $5, monsieur Braque. Je regarde souvent en arrière, et je me demande comment j'ai fait tout ça. Une pause rhétorique. Monsieur Birtwistle, ayant pointé son menton vers une coûteuse figurine de bronze sur la cheminée, maintint immobile son menton comme la pose l'avait trouvé, les 2 bras grands ouverts. En même temps que l'entreprise a grandi, j'ai employé des assistants pour répondre aux questions, écrire les adresses sur les enveloppes, envoyer des lettres circulaires, et assister au travail de routine, mais ceux qui furent les moments les plus heureux, seul avec ma femme à mes côtés, rédigeant mes propres enveloppes, et m'établissant sur une base solide. J'ai besoin de plus d'aide. J'ai besoin d'un jeune homme avec l'éducation qui signalait votre respectable sollicitation, parce que je n'ai eu moi-même que 2 années de scolarisation. Le poignet de retour sur le bouton, 2 doigts tendus. Cette entreprise que j'ai créée n'en est qu'à ses débuts, aussi, là, jeune homme, vous avez une chance de grandir avec moi. Je dois avoir ma propre entreprise. Ne suis-je qu'une machine pour travailler pour quelqu'un d'autre? Cependant pour un jeune homme c'est la seule façon d'acquérir de l'expérience. Je ne suis pas né pour être le serf d'un réveil matin, mais, quand je me lève le matin, pour faire un tour dans mon auto ou un galop à cheval, avant le petit déjeuner, quand le temps le permet. Oui, monsieur, dit Sim. Il est reparti dans le nuage, dit Madame Beartwist l'indifférente, à une mademoiselle d'Infi. Laissons-le délirer. Guffy, fermez la porte. Je ne veux pas que ce chaton sorte, ou tu n'en l'attraperas et le tortureras. C'est une bête et un tortionnaire, c'est ce qu'est une an. Il sollicite de noyer les chatons, quand le chat de quelqu'un a des chatons, descend au restaurant grec pour tuer les poulets pour eux, a pris la souricière de mes mains hier, pour sortir la souris par la queue, et frapper sa tête contre le mur. Fermez la porte, Guffy. Ma chère, avait dit Monsieur Beartwist à sa femme. Nous ne sommes encore qu'à nos débuts, mais je vois mon chemin, maintenant, enfin. Si c'est pour n'importe quelle autre raison que le chaton que vous voulez, que votre porte soit fermée. Disait Emma. Miss Guffy agitant un poing menaçant. Enfin. Déjà je peux entendre le clic de nombreuses machines à écrire, et le piétinement de mon personnel de commis, se hâtant à faire ici et là. Des arêtes et des têtes de poissons sur le sol, casseroles de cendres renversées sous le poêle, les murs verts couverts de taches, la figurine de bronze comme une chose de valeur tombée dans la boîte depuis un naufrage en haut. Monsieur Beartwist le faisait une pause, main sur les hanches, la tête remuant doucement d'un côté à l'autre, puis, laissez-moi vous féliciter, Monsieur Rack, pour votre sérieuse détermination à prendre un départ dans la vie. En conclusion, laissez-moi dire que le succès requiert trois choses, honnêteté, travail et persévérance. Je pense vous avoir fait bonne impression. Il fit un pas en avant, avec une main paternelle tendue en manière d'encouragement pour l'épaule de Sim, déjà tapotant. Oh, malédiction! Une boucle de bretelles s'était prise au coin du fourneau, le tirant fermement en arrière. Ses manières importantes s'envolèrent, Monsieur Beartwist le faisait semblant d'examiner ses bretelles, comme si un accident grave s'était abattu sur elle, Emma sauvant lourdement Mademoiselle Guffy, qui frappait des mains, « Vous êtes peut-être en train de rire de quelque chose que j'ai dit sans le vouloir ?» Étudiant ses bretelles, Monsieur Beartwist l'était en train de dire, vous emmenez Monsieur Rack auprès de Madame Maeffy. Vous pouvez faire quelque chose, non? Vous lui dites qu'il est en pension chez Madame Maeffy, vu que nous sommes au complet ici. Bon, vous pouvez? Madame Beartwist le faisant semblant de ne pas entendre ça, ignorant Sim, feignant de ne pas être au courant de son existence. Est-ce que Monsieur Parker n'a pas bon alu? Venant d'une mademoiselle d'Infi. Quoi? Monsieur Parker se haussant doucement, un doigt planant au-dessus de la machine à écrire, les rougissait tout en appuyant précautionneusement. Je vous conduirai auprès de Madame Maeffy, dit-il. Oui, hésitait Sim, toutefois je n'ai guère arrangé. Il n'y avait personne avec qui s'arranger. Madame Beartwist l'ignorant Sim, Monsieur Beartwist l'assit sur le sofa affaissé, entre les mains de Mlle d'Infi, sa tête penchée presque sur ses genoux, Monsieur Beartwist le murmurait plaintivement, « Vous avez une allumette? Quelqu'un a une allumette? Bon, oui, d'accord, » dit Sim impuissant, et laissant à Monsieur Beartwist l'apparemment impuissant, il alla avec l'apparemment impuissant Monsieur Parker. J'étais tellement mortifié, dit Madame Beartwist. Je ne sais pas ce que le jeune homme doit penser de nous. Il tenait son chapeau tout le temps, n'osant pas le poser sur quoi que ce soit, il était tout le temps à changer sa sacoche d'un endroit du sol à un autre. Que m'importe? Dans un marmonnement de Monsieur Beartwist. Que m'importe ce que pense qui que ce soit? Ne soyez jamais mortifié. « Ma chère. Oh, c'est facile à dire. Comment? Vous devez nous laisser, Emma? Oui, nous sommes seulement sortis pour un moment. Celle-là a eu sa paix, et je ne suis pas à court, en aucune façon. un lourd sourire éclatant sur le visage d'Emma. Nous ne voulons pas que la deuxième maison soit à court à cause de quoi que ce soit que nous avons eu. Celle-là ne voudrait pas vous voir à court, moi non plus. Oh, malédiction! Dit Monsieur Gertwistle, levant légèrement sa tête. La mademoiselle d'un flipot de fleurs debout en face de lui, ayant avec son credo, oh! Ses larges mains rouges se balancent devant elle, comme des mitaines qui sont accrochées par un cordon aux épaules. Bien sûr, dit Monsieur Gertwistle, s'appuyant contre le mur, un petit capital c'est juste ce dont j'ai besoin, et ce que, à son moment, chaque entreprise doit avoir besoin, et chaque penny investi avec moi, est parfaitement en sécurité, mais, même s'il n'y a pas de risque, je ne peux rien recevoir de plus de vous jeune fille. Je parle au nom de celle-ci aussi, dit la blanche mademoiselle d'Infi. Nous devons nous occuper de notre propre compte. C'est naturel de vous occuper de vous-même et si nous pauvres gens nous appuyons pas mutuellement, qui le fera? Celle-ci et moi n'avons besoin de rien ce mois-ci. Jamais! Cria Monsieur Gertwistle, croisant violemment ses bras. N'en dites pas plus, j'ai pris ma décision. Vous avez été bon avec nous, vous l'avez été, en effet, et nous n'oublions pas et ne voulons pas venir ici, avec un bras aussi long que l'autre. C'est vrai quand on dit qu'un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile, vous savez. Les bras de Monsieur Gertwistle se déplient, alors qu'il prend une main de chacune des mesdemoiselles du nid dans chacune des siennes. Vous êtes de très bonnes filles, mais je ne peux pas vous laisser plus longtemps nous aider, même si l'investissement est bon je mourrai d'abord, je le ferai, vraiment. Les choses sont en train de s'éclaircir, aussi nous sommes sur les rives proches du succès, même si j'ai été peut-être un peu impulsif en envoyant ce jeune homme qui est venu aujourd'hui. Quand je lui ai écrit j'étais, peut-être, un peu plus enthousiaste que je n'avais le droit de l'être. Quoi qu'il en soit, il est établi, Kate et Emma, que je mourrai avant que je ne reçoive un autre cent de votre part. Je le dis dans l'absolu, c'est terminé, vraiment. Alors quand nous reverrons-vous? Venez le prochain lundi matin, et nous irons tous ensemble au théâtre. Il délire. Dit Madame Gertwistle sur un ton sans espoir, indifférent. Il est encore en train de délirer. Le théâtre n'est-ce pas? Et ce pauvre monsieur Parker sans une paire de chaussettes supplémentaires pour ses pieds, quand il marche, avec ses mauvaises chaussures, dans une flaque d'eau, lui qui ne regarde jamais où il va. Qu'il lui paie une partie de ce qu'il lui doit avant de parler de théâtre. Vous rendez les choses pires. Les choses masculines pires. Dit Monsieur Gertwistle, relâchant les demoiselles d'Infi, qui se dirigeaient vers la porte, s'arrêtant un moment pour observer Mademoiselle Guffy, qui, à sa table, était en train de coller une bande de papier d'emballage. En dehors dans le hall avec eux, Cathy commençait à crier au revoir. Bien. Nous serons ici aussitôt que nous le pourrons. Vous ne savez rien de Madame Gje, celle dont le mari n'était pas mort depuis 2 jours, qu'elle sortait avec un chapeau voyant? Depuis le perron Cathy cria, oh, vous ne savez rien pour ce qui concerne la fille, la juive qui est mariée au noir? Il doit l'avoir hypnotisée. Le tenancier du débit de tabac l'a vu venir ici une nuit et lui a demandé, dites, où allez-vous? Il a répondu, ce n'est pas votre affaire. Quelle effrontée! Dans la rue, Cathy cria, oh, écoutez. Le rêve que j'ai fait la nuit dernière. J'ai rêvé que j'avais 2 de mes vieilles dents dans la main et 3 autres tombées. Perdre de fausses dents signifie perdre de faux amis. Quelques-uns, dit Cathy, la plupart l'ont regardé s'éloigner depuis la fenêtre. Ne crie pas ainsi. C'est ridicule, dit Emma. Laisse-moi seule. Dit Cathy. M'accompagnerais-tu à une vitrine? On y confectionne une robe de soie que je veux voir. Ma foi, Mais tu te donnes des airs, Cathy.
Je me donne des airs, peut-être, Emma, mais depuis 2 ans, à la maison, mon cœur était attaché à une robe de soie, une qui se distingue, Emma.
C'était la première chose à laquelle j'ai pensé quand nous sommes arrivés, mais quelque chose toujours m'empêchait de...
Quelqu'un les appelait, Madame Birtwistle, soutenant sa cime penchant de cheveux courait après elle.
Cathy. Emma. Bon, vous êtes au courant, je pense.
Vous savez comment il est.
Oh oui, si noble et si grand à un moment, et puis m'envoyant pour... Vous imaginez la suite, je suppose.
Et comment, bien sûr, ma chère, n'étions-nous pas en train de vous le proposer?
Vous pouvez avoir ce que vous voulez.
Vous savez comment il est.
Vous pouvez l'avoir en le demandant.
N'est-ce pas ce que nous voulions, et plus que vouloir?
Nous devrons retourner à la porte quelques instants, donc.
Et, quelques minutes plus tard, Madame Birtwistle de retour au bureau de la Universal Manufacturing Company, les demoiselles d'un fil en le long de la rue.
Que nous sommes infortunés.
Que nous sommes infortunés.
Maintenant où en est la confection d'une robe de soie?
N'aurez donc vous jamais de bon sens, Cathy Dunphy?
Vous alliez directement chez nous pour faire un peu de couture, n'est-ce pas?
Pourtant vous venez tout droit ici avec votre salaire.
N'aurons-nous jamais toutes deux le moindre bon sens, je me le demande?
L'asservissement et le frottage, et le diable pour en tirer un cent.
Où s'en va mon argent, me le demande ma lady, parce que c'est tout ce que je peux faire pour rester présentable.
Et alors le sourire lumineux d'Emma.
La foi, dit-elle, et trouver du réconfort en elle. Avec ses affreux cheveux, tant de liens elle est effrayante, n'est-ce pas?
Oh, oh! S'écria Mademoiselle Dunphy Potiche.
Fin du premier chapitre.